Voilà, la Bible nous dit « Soyez comme des petits-enfants ». Et étant donné que ce matin, il n'y a pas d'école du dimanche ni de groupe d'ados, je voulais faire un culte qui soit une prédication un petit peu plus familiale, je vais dire. Alors, je vais inviter les enfants à participer quand à un certain moment je posais des questions, et puis même les ados, enfin voilà, et puis, quel que soit votre âge, si vous avez à un moment des trucs, des questions, des choses que vous voulez qu'on approfondisse, vous n'hésitez pas à m'interpeller, et puis on va essayer de faire un truc un petit peu plus cool que d'habitude. Alors, j'aimerais tout d'abord commencer à demander à quelqu'un de prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur.
Seigneur, tu attends de nous que nous ouvrions notre cœur. Et nous te demandons ton aide ce matin pour que tu nous aides à l'ouvrir. Tu l'ouvres aussi, toi-même. Pour que tu puisses nous parler et qu'on puisse recevoir ce que tu veux nous dire à chacun personnellement. Je demande ton aide par l'Esprit Saint. Et viens bénir ce moment privilégié. Moment spécial. Amen.
Voilà. Alors j'aimerais débuter donc en vous présentant une première photo. Alors qu'est-ce que l'on voit sur cette photo?
Ton chat peut-être?
Alors ce n'est pas mon chat, mais c'est un chat, effectivement.
Mais c'était le
tien. C'est bien, Marie-Noël.
Oui, c'était le tien.
Bon, celui-là, c'est pas le mien. Alors, est-ce qu'il a l'air joli ce chat?
Non. Moi je trouve pas.
Pas tout à fait, hein, effectivement.
Mais il a des yeux quand même.
Et alors Evelyne, qu'est-ce que tu as remarqué?
Il a une patte
cassée. Alors il a une patte cassée. Donc là vous voyez, j'ai emprunté de laser à mon chat. Hein. Donc là vous voyez, ce chat en fait il a une patte cassée. Alors il a les poils un petit peu dans tous les sens là. Est-ce que vous savez comment il s'appelle ce chat?
Le chat.
Le chat, en fait il n'a pas de nom, et c'est un chat qui appartient à personne. En fait, cette photo que j'ai prise, c'est un chat, en fait, pendant que je faisais mes études à l'école biblique, donc à la faculté de théologie. On a eu, c'était pendant la troisième année, vers la fin de l'année, tout d'un coup, en fait, il y a un petit chat, tout mignon, qui doit avoir 6 mois, pas bien gros, avec un poil très très beau, qui tout d'un coup est venu assez régulièrement sur le terrain de la fac. Et puis, il a rapidement compris que quand il passait aux heures de repas, quand il y avait trop à manger, eh ben, on allait lui mettre une gamelle devant la sortie, là, à l'endroit en fait, là où il y a les pavés. Et donc, à un moment, il a vite compris en fait, qu'il fallait passer à midi et puis qu'il fallait passer le soir à 19h. Et vu que c'est un chat qui est errant, eh ben, c'était beaucoup plus sympa pour lui et beaucoup plus facile pour lui d'aller et puis de manger ce qu'il y avait dans les barquettes. Et puis, étant donné qu'il n'avait pas toujours à manger comme il voulait, on mettait des barquettes, mais c'était des portions d'homme adulte. Hein, et il était capable de tout manger d'un coup. Alors, il était tout petit, il mangeait. C'était assez impressionnant. Et puis, est arrivée la période des vacances, et puis, quand on est revenu des vacances, eh bien, on s'est rendu compte que ce petit chat qui était tout mignon, en fait, est revenu avec une patte cassée. En fait, c'était une fracture ouverte, donc là, on ne le voit pas trop, mais c'était vraiment pas très très joli. Donc il arrivait, enfin, il marchait avec 3 pattes, là. Et puis, le temps est encore un petit peu passé, et puis l'hiver est arrivé, et ce poil qui était très beau et tout mignon, c'est devenu, voilà, un poil qui part un petit peu dans tous les sens. Et puis, quelques mois après, le chat est venu, et cette fois, c'était, alors là, on ne le voit pas, mais il avait carrément les os de la queue qui étaient apparents, quoi. Donc, je ne sais pas trop comment il s'était fait ça, mais bon, bref. Le chat était un peu dans un état pas mal pitoyable, et il n'avait vraiment pas du tout envie de, voilà, il faisait vraiment pitié. En fait, ce petit chat, il n'a personne, il n'a pas de maître, il est libre, ou en tout cas, on pourrait mettre le mot libre derrière, et pourtant, il n'a personne qui lui assure sa sécurité. Alors maintenant, j'aimerais monter et une autre photo. Alors, qu'est-ce que vous inspire ce chat?
Plus fort.
Il est heureux, hein? Ouais. Alors, rien qu'à voir, hein, là, il est dans des couvertures ou je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un chat qui a un maître. Hein. Là, ce chat, il fait pas pitié. Alors, cette photo, elle ressemble beaucoup. Alors, ça ressemble à Spoutnik, hein, qui est mon chat. Donc, vous avez vu, comparé au chat d'avant, moi, mon chat, il a un nom. Il s'appelle Spoutnik. Mon chat, pareil, quand il est fatigué, voilà, tranquille, peinard, il s'affale sur le truc. Est-ce qu'on peut montrer une autre photo? Et puis, vous voyez, alors voilà, là, c'est chat pitre. Donc voilà, bon, là, il n'a pas l'air malheureux non plus, hein, ce chat-là. C'est un chat aussi qui est habitué aux êtres humains, parce que pour qu'il traîne comme ça dans une bibliothèque. Il est assez beau, hein, comme je disais. Et puis, alors, c'est quand on a un chat qui est familier, on s'habitue. Par exemple, mon chat, c'est le meilleur chasseur de tout mon salon, là. Dès qu'il voit une balle, dès qu'il a envie de s'amuser, il va s'amuser avec. Mon chat n'a jamais froid, il n'a jamais faim. Vous savez, je laisse la gamelle, la gamelle avec plein de croquettes. Mon chat ne se pose jamais la question de savoir s'il va avoir à manger ou pas. Quand il a faim, il va, il mange, il boit. Bref, c'est un chat qui n'a pas de problème, qui est très heureux. Et vous savez pourquoi ?
Parce que son maître, il pourvoit.
Parce qu'il a un maître. Mon chat est heureux parce qu'il a un maître. Oui. C'est pour ça que mon chat ne se pose pas de questions. C'est pour ça que mon chat est bien portant. Bref, je crois que j'avais encore une autre photo juste là. Vous voyez, enfin voilà, là il est en position du chasseur. Mon chat, il se met en position du chasseur, mais il ne chasse plus rien, quoi, hormis les balles, hormis quand il a envie de courir après son maître. C'est la seule chose qu'il chasse. Bref, il n'est vraiment pas malheureux. En fait, hein, en vous présentant ces deux chats ce matin, le but, ce n'est pas simplement de vous présenter des chats et la vie des chats. Je veux dire, on a d'autres occasions que l'Église pour en parler. Mais en fait, on a d'autres chats à fouetter. Tout à fait. Mais en fait, ces chats, ils représentent un petit peu deux catégories d'êtres humains. En fait, il y en a certains qui, dans la vie, pensent qu'ils sont libres, pensent qu'ils sont heureux, pensent qu'ils peuvent tout se permettre. Et puis, en fait, effectivement, se permettent beaucoup, beaucoup de choses. Mais cette liberté, en fait, elle a un certain prix, elle a un certain tarif. Et le premier chat, vous savez, qu'on a vu tout à l'heure, il la paye fort, sa liberté. Parce qu'en fait, si un jour, moi, Spoutnik, il vient se casser la patte, dans les quelques heures qui suivent, il est sur la table d'opération du médecin. Et même si ça coûte plus cher de le faire opérer que de le faire piquer, je tiens à mon chat. Donc, on va l'amener sur le billard. Et puis, bon, il y aura une cicatrice. Mais quelques semaines après, quelques mois après, il va rougir un peu dans tous les sens. Mon chat voilà, est tranquille, et même s'il n'a pas ce que l'on pourrait prétendre comme une liberté, mon chat ne sort pas dehors, j'aurais un peu peur qu'il se fasse écraser par une voiture. Par contre, il a une petite cour où il peut vagabonder de temps en temps. On pourrait croire comme ça qu'il est privé de liberté, et pourtant mon chat, il est particulièrement heureux. Et je pense que si, quand ils étaient petits, Spoutnik aurait croisé ce premier chat, puis qu'ils avaient un peu discuté entre eux, ils seraient sans doute dit, tiens, tu sais, en fait, t'es malheureux, t'es enfermé chez toi, tu regardes la vie à travers une fenêtre, et tout ça. Et à première vue, tout pourrait sembler paraître que d'avoir un maître, ça pourrait nous sembler être malheureux. Et pourtant, le constat, c'est qu'au bout de quelques années, eh bien, il y a réellement une différence. Il y a une séparation qui se fait entre ces deux personnes, entre ces deux animaux. Alors j'aimerais prendre un texte biblique qui nous montre l'importance d'avoir Dieu pour maître ce matin. Et ce texte, c'est le texte que l'on trouve dans Ésaïe chapitre 43, et du verset 1 jusqu'au verset 4. Et alors je ne sais pas si un enfant ou un ado voudrait le lire. Mathieu, vous voudrez bien le lire? Non? Quelqu'un voudrait le lire?
Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et je t'aime, je donne des hommes à ta place et des hommes pour ta vie.
Merci. Alors dans ce texte, en fait, on a plein de mots qui sont très forts, en fait, qui sont là pour nous exprimer, en fait, une parole d'amour. Parce que lorsque l'on a un maître, en fait, le maître nous aime, on est important pour lui. Et dans ce texte, alors il y a quelques mots, par exemple, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et c'est ce que je disais, là, Spoutnik a un nom, l'autre chat n'en aura pas. Je serai avec toi. Tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime. En fait, là, c'est même plus fort que ce qu'on peut avoir. Vous savez, parce que bon, un animal, bon, voilà, c'est là, ça disparaît. Enfin, bon, c'est pas le plus important. Mais là, c'est vraiment des paroles qui sont importantes parce qu'en tant qu'être humain, Dieu va avoir une relation avec nous. Et même une relation assez particulière parce que même l'Éthiopie, pour lui, n'a pas d'importance à partir du moment où nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire que Dieu est prêt à faire payer un prix qui est assez conséquent parce qu'il veut montrer l'amour, l'affection qu'il a pour nous. Alors en fait, je crois que ça nous parle particulièrement, tout d'abord en nous disant qu'on a une chance inouïe dans l'Église. Alors je pense particulièrement à ceux qui ont la chance de grandir dans l'Église. On a une chance géniale, c'est d'entendre, depuis qu'on est enfant, que Dieu nous aime, que l'on a de l'importance pour lui. En fait, on est un petit peu dans le cas, vous savez, du deuxième chat que l'on a vu, où l'on a la chance de savoir depuis tout petit qu'on a quelqu'un qui s'intéresse à nous, quelqu'un pour qui l'on a de l'importance. Et ce n'est pas la moindre des personnes, parce que je veux dire, c'est même plus important que le papa et la maman, c'est vraiment Dieu lui-même. Et c'est-à-dire que, quelle que soit la situation dans laquelle on a quelqu'un qui s'intéresse à nous, quelqu'un qui s'intéresse à ce que l'on fait. Alors ça veut dire que tant qu'on nous va bien, ou que l'on marche de façon convenable, eh bien, Dieu s'intéresse à nous, mais ça veut dire que même lorsque l'on fait des choses, vous savez, qui ne sont pas bien, ou même lorsque des fois, vous savez, on a des sentiments, vous savez, on ne se sent pas bien, on n'a pas réussi à l'école, on s'est pris la tête avec un pote, ou je ne sais pas trop quoi, et même dans ce cas-là, ça veut dire que Dieu est content d'être en lien avec nous, et que même dans une situation comme ça, on peut toujours tout lui dire. Cette parole que le Seigneur nous donne nous invite à placer notre confiance en Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Je te connais par ton nom, tu as du prix à mes yeux. Et c'est vraiment super de savoir qu'en n'importe quelle circonstance, on peut avoir un cœur à cœur avec Dieu et lui dire ce que l'on ressent. Et est-ce que vous savez comment on peut l'exprimer, ça, à Dieu, ce que l'on ressent ? Par la prière. En fait, vous savez, simplement, en fait, la prière, c'est simplement dire ce que l'on a à cœur. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, quand on a passé une bonne après-midi, simplement terminer l'après-midi en disant, « Seigneur, c'est vraiment cool, je me suis vraiment éclaté aujourd'hui. » Ou bien, je ne sais pas, quand on joue et puis qu'on passe un bon moment sur un match de foot, dire, « Seigneur, merci parce que je repars en étant en santé, je me suis bien amusé, en plus, j'ai gagné. » Ou bien même, quand ça ne va pas, de dire simplement, Seigneur, tu vois, je ne sais pas, je m'entends très bien avec ce copain, et puis aujourd'hui, eh bien, on s'est pris la tête, ou je ne sais pas, j'ai reçu une mauvaise note à l'école, ou je suis malade, je ne me sens pas très bien. Et simplement, vous savez, de pouvoir le dire dans une totale confiance et dans une totale intimité avec Dieu. En fait, la prière, ce n'est pas que, vous savez, quand on est là le dimanche matin et qu'on fait une prière toute belle, bien faite. J'ai comme ça un exemple. J'ai une amie qui... en fait, Dieu a fait vraiment des dons à l'Église. J'ai eu la chance, pendant que j'étais à la fac de théologie, de côtoyer deux personnes. Donc, il y en a un qui est en train de se former à un doctorat de théologie, donc il va être prof d'Ancien Testament dans quelques années, je pense très certainement. Et puis, son épouse, elle a aussi à cœur la formation, mais elle s'intéresse plus à la formation pour les enfants, pour les adolescents. Puis un jour, elle voit des jeunes de son Église, et elle dit, alors, qu'est-ce que tu penses quand tu vois les gens pendant la Sainte Cène ? Alors, j'ai trouvé que la remarque qu'elle a entendue était assez intéressante. Elle dit, c'est marrant parce que quand les gens prennent le morceau de pain, ils le mâchent tout lentement. Alors, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que la seule chose que cet ado retenait de la Sainte Cène, c'est que c'était un moment triste, serein, on mange le pain tout doucement, voilà, on fait des prières bien longues. Alors ça, c'est une forme de la prière. Mais la prière, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus que ça. C'est vraiment quelque chose de spontané et que l'on peut faire de toute façon, de façon tout à fait naturelle. Mais alors, ça veut dire aussi quelque chose, c'est que si nous, on a la chance de pouvoir, vous savez, nous approcher de Dieu et côtoyer Dieu de façon tout à fait intime, tout à fait naturelle, eh bien, ça veut dire aussi qu'il y a aussi ce deuxième cas. Certains n'ont pas cette chance-là. Et comme on a vu, vous savez, qu'il y avait ce chat qui grandit dans une maison, qui, quand il a envie d'avoir un câlin, va venir auprès de son maître. Le chat qui est cool, là. Et puis, il y a aussi ce chat noir que l'on a vu. Et puis, ce chat noir, il a une particularité. Et il a quelque chose qu'il ne savait pas et qu'il ne connaissait pas. C'est que ce chat noir, on l'appréciait. Et en fait, tous les étudiants de la fac, en fait, ont trouvé que c'était assez mignon d'avoir ce petit chat qui venait, et c'était pour ça qu'on allait lui donner à manger. Mais seulement, il n'y avait jamais personne qui avait pu lui exprimer que les êtres humains aiment les chats et que les êtres humains ne sont pas que des chasseurs qui ont envie de lui faire la peau. Et ce chat, donc, en fait, dès qu'on essayait de l'approcher, il prenait la coupe d'escampette et puis il partait à toute vitesse. Et souvent, même ce qu'il faisait, enfin, il était assez marrant, en fait, il allait se planquer un peu plus loin parce qu'il savait à la fois que, à la fois lui, il avait peur parce qu'il nous voyait, puis à la fois, c'était assez bizarre parce qu'il savait qu'en fait, on allait lui apporter une gamelle, donc en fait, il allait se planquer à 15-20 mètres plus loin, et puis dès qu'on s'en allait, en fait, il savait qu'il allait se faire un bon repas. Et puis moi, j'avais pris à cœur de lui donner assez régulièrement à manger, et donc quand je sortais, eh bien, je me disais, tiens, viens, j'essayais un peu de parler avec lui, et voilà, à parler. Ce n'est pas une conversation des plus passionnantes, quoi. Mais en fait, au bout d'un moment, le chat a reconnu ma voix parce qu'il voyait régulièrement que j'essayais de lui apporter à manger. Et puis, petit à petit, j'essayais de l'approcher. Et ce qui était drôle, c'est que dès que quelqu'un essayait de l'approcher, il se sauvait. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai réussi à l'approcher à 15 mètres, à 10 mètres. Un jour, j'ai réussi à l'approcher à 5 mètres. Et puis, un jour, en été, il n'y avait plus d'étudiants sur le campus. Moi, je restais sur le campus. Et puis, j'ai même pu l'approcher à 1 mètre, 1 mètre et demi, mais je savais que je ne pouvais pas l'approcher plus, parce que si je m'approchais plus, ben, il allait se sauver. Eh bien, cette situation, elle est un petit peu comme cette situation des gens qui nous entourent et qui ne connaissent pas l'Église. En fait, quand vous parlez à un collègue de classe, quand vous parlez à un collègue de travail des choses de la foi, la première réaction, c'est « Oh là, vous savez, moi, les choses de Dieu ». Et puis, en fait, vous savez, les gens sont très pudiques quand on parle de Dieu. Et c'est petit à petit, en fait, qu'on a la capacité de pouvoir les approcher. C'est en étant tout à fait naturel et en montrant aux gens, en fait, que bah, vivre sa foi, c'est quelque chose de tout à fait naturel, tout à fait normal, et qu'on les aime, et qu'on les aime sans contrepartie. Et c'est comme ça que, petit à petit, en fait, on peut réussir à les approcher. Nos amis ne connaissent pas forcément le Seigneur, et ça veut dire que bah, nous, on sait que Dieu leur veut du bien, parce qu'on connaît le Seigneur. Mais eux ne le savent pas forcément, et ça veut dire que ben, la première fois qu'on va vouloir les approcher, on aura le droit à des moqueries, on aura le droit, vous savez, à des gens qui vont se mettre en réserve, et c'est tout à fait naturel, et c'est une réaction qui est tout à fait normale. Et c'est donc notre rôle, parce que nous savons que Dieu veut du bien à l'humanité, et même petit à petit, on doit les approcher. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter de parler simplement de ce que l'on vit. Vous savez, par exemple, je ne sais pas... si vous avez une réponse à la prière, bah tiens, l'autre coup, je priais pour ça, bon, je ne sais pas, il y a des choses, par exemple, je prie pour ça, et spontanément, pouf, je vois Dieu qui répond. Et puis, simplement dire aux gens, bah tiens, ah c'est marrant, là, tu es en train de m'offrir un truc, bah écoute, tu ne me croiras peut-être pas, mais du coup, je priais pour que je puisse recevoir ce truc-là. Ou, par exemple, j'ai un collègue de travail, là, qui me dit l'autre jour que son épouse est partie, aux urgences, à l'hôpital, et elle est sous le coup... vous savez, on est assez pudique des fois entre collègues, et j'ai pas trop osé lui demander. Puis le soir, je me dis, mais t'es bête, t'es pasteur, ton rôle en tant que pasteur, c'est de prendre soin des gens dans l'église, et même en tant que chrétien, je veux dire, c'est même pas le rôle du pasteur, je veux dire, c'est le rôle du chrétien, naturellement, c'est de prendre soin des gens. Et puis l'autre coup, donc il garde la voiture en même temps que moi, puis je lui dis, mais en fait, le coup, tu m'as dit que ton épouse était d'urgence, ça va, est-ce que ça va mieux, est-ce que c'est important, et puis voilà, et puis le gars donc, se livre un peu plus à moi. Et puis je lui dis, mais écoute, je prendrai à cœur de prier pour ton épouse. Voilà, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Voilà, on n'est pas allé plus loin dans la conversation. Mais c'est, voilà, c'est toutes des petites perches qui sont tendues comme ça et qui font que petit à petit, en fait, on familiarise les gens avec les choses de Dieu. Alors, en fait, les choses ne se font pas d'un coup. Et c'est avec en ayant beaucoup d'amour pour les gens, en ayant beaucoup de simplicité avec eux, que petit à petit, les gens vont pouvoir se rapprocher. Et c'est là encore où on peut voir la différence, comme je le disais, entre des gens qui ont grandi en connaissant les choses de l'Église et des gens qui y ont grandi loin des choses de la foi. Spoutnik, quand je l'ai eu, c'était une petite boule de poils là, qu'il y avait de moi. Et puis, de façon toute naturelle, en fait, il a compris que j'étais son maître. Il lui a fallu juste quelques heures. On s'est amusé ensemble. Enfin bref, c'était vraiment une relation en fait tout à fait normale, parce que pour lui, il était petit, et donc quand on est petit, tout ce que l'on vit en fait sont des choses tout à fait normales et qui sont des choses tout à fait naturelles. Et bien avec la foi, c'est pareil. On a une chance géniale quand on a la chance de grandir dans l'Église. Il y a des tas de choses en fait qu'on apprend de façon tout à fait naturelle. On regarde comment fonctionne le papa, comment fonctionne la maman, et puis en fait on se dit, mais un chrétien c'est ça, quand on voit, je ne sais pas, quelque chose qui ne va pas, puis les parents qui d'un coup s'affolent, puis qui disent, en fait on va prier, ah ouais, là on va prier, et puis en fait c'est quelque chose de tout à fait naturel, ou je ne sais pas, enfin quelle que soit la situation, où je ne sais pas, en fait on voit le papa, la maman qui lit sa Bible régulièrement, puis d'un coup dans la voiture va se mettre à chanter une musique chrétienne. C'est génial. En fait, c'est toutes des choses. En fait, on s'imbibe d'une culture chrétienne et c'est quelque chose qui est très très bon. Et ça veut dire aussi donc que les parents ont aussi une certaine responsabilité. On est pour nos enfants un exemple, le premier exemple de ce que doit être le chrétien. Donc j'encourage en tout cas les parents à encourager les enfants à prier, peut-être à leur dire, écoute, tu vas pas bien, viens, on discute. Puis une fois qu'on a discuté, enfin, parce que bon, il n'y a pas que la prière, hein, je crois que la relation papa-maman, c'est une relation plus que la prière, c'est aussi une relation où on discute, on expose simplement ses problèmes. On est la première image aussi de ce qu'on renvoie de Dieu, hein. Dieu est notre Père, et quand on a eu un papa et une maman qui nous élèvent dans une condition de confiance, ça nous aide aussi à avoir beaucoup plus confiance en Dieu, et lorsqu'on appelle Dieu notre Père, ça nous ouvre aussi à beaucoup plus de confiance. Et puis, ne pas avoir peur de dire à notre enfant, bah, écoute, on prie ensemble, ou si il n'a pas envie de prier, ou si on sent que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour dire de prier, eh bien, l'enfant sait que naturellement, on va pouvoir prier pour lui. Et il n'en est pas ainsi pour le premier chat là, que je vous ai montré. Si, par exemple, ce chat, j'avais réussi à le capturer, et puis que je l'avais ramené à la maison, d'après vous, est-ce que le chat serait devenu tout d'un coup tout à fait normal? Et puis, est-ce qu'il aurait eu les mêmes conditions que Spoutnik?
Non.
Non?
Pas non.
Non? D'accord, pas on pense sur le comportement.
Mais il faut l'apprivoiser. La... Hein.
Ah ben, il faut l'apprivoiser. Mmh. Et puis même en l'apprivoisant, en fait, toute sa vie, ce chat aura des séquelles. En fait, même si demain je le capture, à chaque fois qu'il verra la gamelle, il va vouloir se jeter dessus, parce qu'il se souviendra des 2-3 années où il n'avait pas eu faim à manger selon sa faim. Toute sa vie, même si demain je l'amène au vétérinaire, en sachant que là sa plaie doit avoir 2-3 ans, ils l'amputeront. Donc toute sa vie, c'est un chat qui va boiter, enfin, c'est un chat qui va avoir des séquelles pendant toute sa vie. Et puis, plus le temps passe, et plus les choses seront difficiles pour lui. C'est-à-dire que si j'avais capturé le chat au bout de 6 mois, quand il n'avait pas de séquelles, bon, il aurait eu quelques comportements un peu bizarres, mais voilà, il a des choses qui se seraient rapidement solutionnées. Mais si je récupère un chat qui a 15 ans dans la nature, s'il arrive à 15 ans, je ne pense pas qu'il y arrivera, mais bon, voilà, ce chat, il est foutu, quoi, hein, foutu par la vie, enfin, bon, je fais direct quand je dis ça, mais il est irrécupérable. Alors, ça nous instruit sur deux choses. La première, c'est que Dieu veut avoir une relation avec nous. En fait, même si on pense que Dieu ne nous aime pas, et qu'il ne nous veut pas de bien, eh bien, en fait, Dieu nous aime. Je me souviens, il y a quelques années de ça, j'étais sur une campagne d'évangélisation à Lyon, et donc tous les ans, je faisais une campagne d'évangélisation avec un groupe missionnaire là, pendant la fête des Lumières à Lyon. C'était vraiment génial, on avait des tas de contacts extraordinaires. Et alors je me souviens d'excellents contacts, et alors je me souviens d'un contact qui m'avait assez traumatisé. Je vais prendre un flyer là, une fille qui passe, et la fille me dit: de toute façon, je suis dans un état de péché et Dieu ne m'aime pas à cause de ça. Et puis la fille continue son chemin, j'étais bouche bée, en fait, je ne savais même pas quoi dire. Quoi. Enfin, alors que, enfin, pour moi, ça paraissait tellement naturel que Dieu aimait cette personne, comme elle aime chacune des personnes que j'ai rencontrées cette soirée-là. Et ça m'a profondément traumatisé, parce que cette fille-là grandit avec un handicap. C'est qu'elle est convaincue que Dieu ne l'aime pas à cause de la situation qu'elle a dans sa vie. Et bien en fait, c'est faux. Cette fille, Dieu l'aime. Alors, il n'aime pas forcément tout ce qu'elle fait. Vous savez, c'est comme si j'avais récupéré ce chat. Je dis, ce chat aurait fait caca partout dans la maison. Enfin bon, voilà, il y a des tas de choses qui sont super désagréables. Mais pourtant, il y a des choses, vous savez, enfin, Dieu n'aime pas forcément tout ce que l'on fait. Mais par contre, Dieu nous aime simplement parce que nous sommes. Et ça, c'est super important de le savoir. Et c'est une chance géniale quand on rentre dans l'Église, d'entendre que Dieu nous aime, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Et notre devoir, c'est d'oser dire aux gens, mais sortez un petit peu de ce que vous avez pu imaginer de Dieu. Vous ne le connaissez pas réellement. Moi, je le connais, et je suis capable de dire que parce que je le connais, il vous aime. Il veut avoir une relation avec vous. Et c'est notre rôle aussi, parce que nous savons que Dieu nous aime, d'oser dire aux gens, sortez un petit peu de votre mentalité. Dites-vous que vous ne le connaissez pas. Et si vous le connaissiez réellement, vous sauriez combien il vous aime, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Osez prier, osez lui demander, osez vous exprimer, exprimer ce que vous ressentez, osez vous approcher de lui simplement. La deuxième chose aussi, c'est que plus on attendra avant de faire cette démarche de s'approcher de Dieu, si on ne le connaît pas, et plus il y aura des séquelles. La vie, le péché, tout ce qui déplaît à Dieu vient mettre des choses au-dedans de notre vie qui vont laisser des séquelles au-dedans de nous. comme je disais là, si j'avais récupéré le chat, eh bien, quelle que soit la situation, il aurait continué à boiter pendant jusqu'à la fin de ses jours. Et je pense comme ça qu'il y a des situations dans la vie que plus on attendra, et plus il y aura des séquelles dans notre vie. C'est pour ça, je crois que plus on a l'occasion de faire tôt à l'évangile, plus on a l'occasion de saisir les choses de la foi, plus il faut y venir tôt. Je pense par exemple, vous savez, quand on vient à l'évangile, que l'on a 13, 14, 16 ans, 18 ans, et si l'on n'a pas eu par exemple l'occasion de fréquenter quelqu'un, eh bien c'est toutes des choses qui sont géniales, parce que la première personne que l'on fréquentera quand on est chrétien, on aura une relation normale. Vous savez, en fait, simplement dire à l'autre qu'on l'aime, ça ne veut pas dire que tout se passe bien, la situation de couple est toujours difficile, mais c'est quelque chose de génial de ne pas se dire « Et alors, est-ce qu'il est allé avec quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qu'il a vécu avec cette autre personne ?» Je pense aux situations de divorce, c'est quelque chose de tragique, de dramatique, ça laisse des séquelles toute une vie. Les enfants qui suivent derrière, qui vont aussi avoir les conséquences de ce choix, les relations multiples, les échecs scolaires, les échecs dans le travail, la drogue, bref, toutes ces choses-là laissent des marques, laissent des conséquences. Et toutes ces choses font que, même si par la suite on se convertit, ça laisse des marques profondes dans la vie. Moi je me souviens par exemple d'un frère, il y a quelques années, qui s'est converti à l'évangile, enfin c'était toute une bande, là, c'était assez marrant, il y avait une vingtaine de jeunes là qui étaient venus à l'église, donc c'était des drogués, des babacools là, et certains d'entre eux sont convertis à l'évangile, et donc certains sont encore chrétiens aujourd'hui, d'autres se sont retournés alors soit dans leur ancienne vie, soit en changeant un petit peu de vie. Mais vous savez, ceux qui ont connu la drogue, vous savez, il y en a, on sentait qu'il y avait encore des séquelles, même quand ils s'étaient convertis, de ce qu'ils avaient pu vivre. Ou bien, vous savez, quand il y avait des gens qui n'avaient pas travaillé pendant 5-10 ans, ce n'est pas des choses qu'on recrée comme ça, et on ne va pas voir le patron du premier coup en lui disant qu'on est directeur d'une entreprise si on n'a pas travaillé pendant quelques années. Bref, il y a des séquelles de la vie de péché. Et c'est pour ça qu'il faut, le plus rapidement possible, se tourner vers notre maître. Mais la contrepartie de ce que je suis en train de dire... Oui, alors pardon, c'est pas la contrepartie, mais c'est, je crois aussi, une des choses aussi, c'est que lorsque l'on voit justement des personnes comme ça qui ont grandi loin de la foi chrétienne, et bien notre rôle dans l'Église, c'est aussi de comprendre que les choses ne seront pas simples pour ces personnes-là. Et donc nous devrons user de patience lorsque ces personnes viennent à l'église. Ça y est, il y a des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas naturelles pour certaines personnes. Pour nous, en tant que chrétiens, on a la chance, vous savez, soit parce qu'on a grandi dans l'église, soit parce qu'on a quelques années de conversion, et pour nous, il y a des choses qui paraissent tout à fait normales. Par exemple, j'ai un exemple comme ça dans la tête, un frère que je connais là, qui est très engagé dans son église aujourd'hui aux Antilles, et qui a passé son adolescence à faire un petit peu n'importe quoi dans l'église, et puis il s'est converti à l'évangile. Et puis il avait un travers, c'est qu'il aimait beaucoup les femmes, et qu'il allait le dimanche matin à l'église, mais le soir d'avant, et bien, il était sorti en boîte de nuit, et puis il avait fait une rencontre, puis le dimanche qui suivait, il avait fait une rencontre. Je crois vraiment que cette personne était sincère dans son désir de vivre une relation avec Dieu. Je vais peut-être parler même de conversion, mais ce gars, il avait eu ce travers parce qu'il l'avait chopé, parce qu'il ne s'était pas converti en tant qu'adolescent, et au moment où il s'est converti, et bien, il avait continué avec ce travers. Et il a compris que, bah, il fallait qu'il se marie, et puis à partir du moment où il s'est marié, c'est un homme qui est devenu fidèle à son épouse, qui est devenu engagé dans la foi, et je crois qu'il nous faut aussi être patient vis-à-vis de personnes comme ça qui rejoignent l'Église et qui ont connu des situations qui n'étaient pas faciles. Et même après des années, voilà, donc je crois qu'il y a des attitudes qui resteront et que, voilà, qu'il nous faut, en tant que chrétien, accepter que les gens continuent à approfondir ce chemin de sanctification. Alors enfin, je crois que ces deux animaux-là qu'on a vus tout à l'heure, c'est qu'à un moment aussi, il y a un choix qu'on doit faire dans la vie. Et Spoutnik a eu cette chance extraordinaire de grandir dans des conditions qui étaient rêvées, qui étaient super cool et tout ça. Et puis les enfants ont cette chance géniale donc, de grandir dans l'Église. Mais arrivera un moment où, en tant qu'adulte, on ne peut pas les tenir indéfiniment à la maison, mais à un moment, il y a des choix qui doivent être faits. Et c'est ce qu'on proclame, vous savez, quand on dit que le baptême doit être fait en tant qu'adulte, ça veut dire que l'enfant, on l'encourage à suivre la voie qui nous semble la bonne, mais arrivera un moment où l'enfant devra faire son choix, et ce n'est pas aux parents, et je vous encourage, si vous êtes parents, à ne pas dire à votre enfant, « Bon, baptise-toi maintenant, t'es grand. » C'est vraiment, à un moment, l'enfant qui doit dire, le Seigneur est mon maître et je veux le marquer d'un sceau. Je veux dire vraiment et je veux affirmer que le Seigneur est mon maître et je veux le montrer en m'engageant dans les eaux du baptême. Alors notre rôle, c'est simplement de donner tout ce qu'il faut pour que nos enfants puissent grandir dans la foi, puissent comprendre que le Seigneur est quelqu'un d'important pour eux et oser leur dire à un moment, vas-y, vis, fais le choix qui sera important pour toi. Et j'aimerais prendre donc le dernier texte d'Ésaïe, chapitre 53, versets 5 à 7. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait le lire.
53 ou 43
43, pardon. 43, à partir du verset 5.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de ton nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai faits.
Voilà, merci. Et alors peut-être qu'un jour, vous irez voir ce qui se passe à l'extérieur, et à un moment, ça sera votre choix, votre responsabilité, et voilà, ça fait partie de la vie. Moi, je l'ai même moi-même vécu en tant qu'adolescent, mais ce texte nous dit, le jour où vous voulez revenir, vous pourrez toujours revenir, parce que le lieu dans lequel nous nous réunissons est le lieu où vous serez toujours accueillis, parce que Dieu nous aime. Et quelle que soit la situation, quel que soit le chemin que l'on a pris, Dieu veut que l'on soit en relation avec lui. Le prophète Ésaïe, quand il dit ça, il le dit dans une circonstance particulière. En fait, le peuple d'Israël a péché contre lui. Il a même, je vais dire, vraiment fortement abusé. Et le peuple d'Israël se retrouve en déportation. Et même dans ce moment où on aurait envie de dire que Dieu, là, cette fois, il a complètement abandonné les siens, là, et puis c'est tout à fait légitime. Et même dans ce moment où le peuple est loin de lui, il leur dit, mais revenez, parce que j'ai les meilleures choses qui vous attendent si vous êtes près de moi. Et même dans ces moments, et on pense que la relation avec Dieu est totalement anéantie, Dieu nous appelle toujours à lui. Donc, j'aimerais vraiment que vous reteniez que, même si un jour, vous vous éloignez de lui, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, Dieu vous appelle. Dieu veut que vous soyez près de lui. Dieu veut avoir une relation avec vous. Et même si on est parti au loin, on n'a pas à avoir peur de prier. On n'a pas à avoir peur de l'invoquer, quelle que soit la situation où on est. Et j'aimerais dire, si vous retenez une chose de tout ce que j'ai dit ce matin, c'est que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous pourrez toujours invoquer le Seigneur parce qu'il vous écoutera et parce qu'il sera toujours heureux de vous voir vous approcher de lui. Alors j'aimerais conclure en disant, tout d'abord, une première chose, acceptez Jésus comme votre maître. En fait, comme je disais au début, en fait, on pourrait croire que le chemin, vous savez, le plus large qu'on prend, est un chemin qui est cool. Comme vous disiez, là, moi, je voyais le soir, là, le petit chat noir, là, qui allait courir dans les champs, il allait s'amuser avec les moustiques, il semblait être heureux. Et en fait, résultat des courses, celui qui est le plus heureux des deux, c'est pas celui qu'on aurait cru au début. Et j'aimerais vraiment vous encourager à trouver le véritable repos, celui qu'on a en tout temps, en vivant votre foi, en acceptant le Seigneur comme votre maître. Peut-être que des fois, ça peut vous paraître dur parce que vous dites, en fait, je suis enfermé, je ne fais pas tout ce que je veux. Et en fait, peut-être que le meilleur des chemins n'est pas forcément de faire tout ce qui nous prend par la tête. Enfin, vous avez toutes les envies qu'on peut avoir dans la tête. Mais des fois, le meilleur des chemins, c'est, vous savez, celui que le Seigneur veut pour nous. Et puis alors, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, la meilleure des chances, je pense, que l'on peut avoir dans la vie, c'est de grandir dans l'Église. Moi, je suis super heureux d'avoir connu l'Église lorsque j'avais 10 ans. Et même si je m'en suis éloigné pendant un temps, je suis super heureux d'avoir entendu toutes ces choses. Parce qu'à 16 ans, lorsque le Seigneur m'a rappelé, je savais qu'en revenant à l'Église, je pouvais trouver une situation qui était bonne pour moi. Alors, c'est-à-dire que je crois que c'est aussi une invitation qui se fait aux adultes. Je vous encourage fortement, premièrement les parents, encouragez vos enfants, tant que vous le pouvez, à venir à l'Église. Et même si, à un moment, vous avez des adolescents en face de vous, et des fois les ados ne veulent pas forcément vous suivre, mais simplement de leur dire, bah, le jour où tu veux revenir, eh bien, tu auras toujours un papa et un maman qui t'encourageront à revenir à l'Église. On a, je crois, une responsabilité en tant que parent de dire simplement qu'on est toujours là pour pouvoir accueillir nos enfants. Et puis, je crois que ce cadre, ça dépasse aussi le cadre des parents, c'est-à-dire que tous, dans l'Église aussi, on a cette responsabilité d'aimer les enfants, de les accepter, de les supporter, même quand tu es ado. Vous savez, moi, j'étais un ado particulièrement pénible quand j'étais dans l'Église, mais je suis super content parce qu'en fait, il y avait des adultes qui, à un moment, on osait dire, ben, c'est un ado, il faut qu'il s'exprime, il faut lui laisser du temps et tout ça. Et puis, le jour où j'ai eu besoin, ben, je savais que la porte de l'Église m'était ouverte parce qu'il y a eu des adultes qui ont été super patients avec moi. Et c'était vraiment quelque chose de génial. Alors, ce que j'ai voulu dire ce matin, eh bien, je crois que ben, vraiment l'Église est une Église qui doit être ouverte à tous. Et que, ben, tant mieux si on a toujours vécu dans les rangs de l'Église. Et je crois que c'est vraiment une super chance. Et je vous encourage, si vous avez encore l'occasion de saisir cette chance, ne sortez pas de l'Église. Profitez jusqu'au bout de ce qu'elle peut vous apporter. Et puis, si vous avez été tenté, ou même peut-être que vous êtes sorti de l'Église pendant un temps, eh bien, l'Église est toujours un lieu où vous pourrez toujours être accueilli, quelle que soit votre situation. Et si vous avez en ce moment vous savez, des tentations et que vous avez envie de voir un peu ce qui se passe ailleurs et puis que vous avez envie d'en parler, eh bien, n'hésitez pas, vous savez, après le culte, soit moi, soit un adulte en qui vous avez confiance, soit même si vous êtes adulte vous-même et puis que vous avez une situation de crise dans votre vie, trouvez un frère, une sœur avec qui vous pouvez en parler et dire en ce moment il y a des trucs que je ne comprends pas, il y a des situations de souffrance. Mais osez en parler parce que vraiment je crois que le meilleur des chemins que l'on peut suivre, c'est toujours de le suivre avec le Seigneur Jésus. Mmh.